Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les obsèques aujourd'hui à Midelto, Maroc, du dernier moine de Tibérine. Le frère Jean-Pierre Schumacher est mort dimanche dans le monastère de cette ville. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon l'avait rencontré en 2018 à Oran lors de la béatification des 7 moines assassinés. Kamel Kaptan sera l'un de nos invités. Entretien également dans votre journal avec le père Vincent Feroldi, ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France, prêtre du diocèse de Lyon. Il reviendra sur le parcours du frère Jean-Pierre Schumacher. La clôture des candidatures pour la présidentielle du 24 décembre prochain en Libye. L'autorité électorale a reçu les dossiers de plus de 90 candidats. Des avocats et un parlementaire demandent aux autorités françaises de rapatrier les femmes et enfants français de djihadistes retenus dans des camps en Syrie. Parmi eux, Maître Richard Sédillo du Conseil national des barreaux. Nous l'écouterons. Elle a débuté aujourd'hui la 37e campagne des Restos du Cœur en France. Les obsèques aujourd'hui à Midelto, Maroc, du dernier moine de Tibérine. Le frère Jean-Pierre Schumacher est mort dimanche au monastère de cette ville. Il était âgé de 97 ans. Il était le seul survivant du massacre de Tibérine. En 1996, 7 moines du monastère de Tibérine avaient été enlevés. Leur tête décapitée avait été retrouvée sur une route 2 mois après leur enlèvement en Algérie. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon avait rencontré le frère Jean-Pierre Schumacher en 2018 à Oran, à l'occasion de la béatification des 7 moines. Kamel Kaptan.
Le frère Schumacher a été le témoin d'une tragédie qui a bouleversé l'ensemble des chrétiens, mais aussi l'ensemble des musulmans qui, notamment en Algérie, ont été très touchés par ce qui venait de se passer à Tibérine. Il a été le témoin d'une tragédie qui a ensanglanté Tibérine, qui était un lieu de recueillement, un lieu où tous ceux qui voulaient venir se ressourcer ou rencontrer ou parler avec les chrétiens, c'était un lieu fantastique, et malheureusement certains en ont souhaité autrement. C'est vrai qu'il a réussi à en échapper. Il a continué à vivre, il a voulu continuer à vivre dans le même état d'esprit qui caractérisait sa vie à Tibérine, et il a souhaité mourir et rester, vivre plutôt, et mourir en terre maghrébine. Et ça, je crois que c'est l'hommage qu'il a pu rendre à l'ensemble de la communauté musulmane, puisque il n'aurait pu choisir de revenir en Europe, mais il a voulu rester, continuer à vivre sa vie, la vie qu'il vivait à Tibérine. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, nous pleurons quelqu'un qui a été, comme je le disais tout à l'heure, le témoin d'une tragédie, mais aussi quelqu'un qui a su parler de ce moment et qui a su dire qu'effectivement, ce qui s'est passé ce soir-là à Tibérine n'est pas le fait de l'ensemble de l'islam avec un grand I, mais simplement de gens qui ne connaissaient pas justement cet islam, qui ont assassiné les moines de Tibérine et qui ont voulu effectivement marquer par ce crime une volonté certaine de s'opposer à tous ceux qui n'étaient pas des leurs. En tous les cas, je l'ai vu, frère Schmacher, je l'ai revu, il était présent lorsque nous étions au rang en 2018, en décembre 2018.
C'était à l'occasion de la cérémonie de béatification des 7 moines le 8 décembre à l'église Notre-Dame de Santa Cruz à Oran, oui.
Tout à fait, il était là et il a effectivement montré par sa présence, son témoignage, cette terre d'Afrique qu'il aimait, cette terre du Maghreb qu'il a aimé, cette terre d'Algérie qu'il a aimé. Et je crois que c'était pour nous un moment très important de discuter avec lui, de voir, je l'ai vu donc lors de cette cérémonie, et la veille, il y a eu une cérémonie particulière qui était faite à l'évêché d'Oran, où il était présent aussi. Donc, pour vous dire tout ça, c'est que aujourd'hui, un témoin de son temps nous quitte, et j'espère que là-haut, il retrouvera effectivement la sérénité et la paix qu'il a toujours voulu retrouver auprès de ses frères qui l'avaient quitté quelques années plus tôt. En tout cas, nous pouvons que témoigner de notre sympathie, de notre fraternité vis-à-vis de frère Schumacher et de lui dire peut-être que nous nous retrouverons là-haut ensemble, Charles.
Parce que ces moines de Tibérine, ils symbolisaient plus que ça même le dialogue interreligieux.
Je pense qu'ils le pratiquaient tout le temps. J'ai visité Tibérine et j'ai compris pourquoi ces gens, ces moines étaient restés là dans une contrée tout à fait à l'écart de toute la, je dirais presque de toute la civilisation, mais à l'écart des grandes villes et à l'écart de, ils étaient là, ils vivaient en osmose avec la population qui les entourait. La population qui les entourait les avait adoptés et ils faisaient partie. ils faisaient partie de cette société qui était leur voisin. Donc à partir de là, je pense que les musulmans, qui eux-mêmes ont été lorsque nous sommes allés à Tibérine il y a quelques années avec le cardinal Barbarin, et nous avons pu constater les relations qui ont pu exister entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Et cette relation, je pense qu'elle se manifestait par le respect que la population leur portait.
Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, suite à la mort du frère Jean-Pierre Schumacher, entretient à présent avec le père Vincent Feroldi, ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France, prêtre du diocèse de Lyon. Le père Vincent Feroldi.
Le frère Jean-Pierre Schumacher est un moine cistercien qui avait, comme tant d'autres, répondu à l'appel de son ordre et de l'Église d'Algérie. Il avait donc été, dans les années 60, fondé et rejoint la communauté à Tibérine en Algérie. Et avec frère Christian, Christophe, Luc et tant d'autres, que l'on connaît grâce au film « Des hommes et des dieux », il avait donc de moines, de prières, d'écoute, de rencontres en Algérie. Et il était donc pendant la décennie des années noires à Tibérine, au-dessus de Médéa. Et c'est pendant ces années-là que les frères de la montagne, comme ils les appelaient, les islamistes, sont venus plusieurs fois au monastère, entre autres se faire soigner. Et malheureusement, en mars 1996, 7 d'entre eux ont été enlevés. Et en fait, avec le frère Jean-Pierre, il y avait le frère Amédée qui s'était caché, et comme les terroristes avaient le chiffre de 7, ils ne savaient pas que ce jour-là, en fait, ils étaient 9. Il était donc sorti vivant de cet enlèvement, et par la suite, il y a eu la fermeture du monastère, et il est allé d'abord à Fès, avec quelques moines fondés un prieuré. Et puis, quelques années après, ils se sont installés à Midelt, dans le Haut-Atlas, parce qu'il y avait la possibilité de pouvoir profiter d'une maison qui jusqu'alors avait été occupée par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, qui étaient insérées depuis des décennies dans cette province marocaine de Midelt.
Et après avoir vécu en Algérie, il était important pour lui de rester auprès des musulmans au Maroc.
Alors il y avait cette fidélité à cet engagement de vivre sa foi chrétienne au cœur même d'un pays musulman et en proximité avec des amis musulmans. Et en même temps, il avait cette éternelle question, mais pourquoi lui en était sorti comme Amédée? Pourquoi il n'était pas mort martyr avec ses frères? Et pendant des années, il a cherché, et c'est une religieuse qui lui a finalement donné un peu la clé à sa réponse, à savoir que pour Dieu, des personnes ont à témoigner de leur foi en donnant leur vie, et à d'autres à témoigner justement de leur foi en vivant au milieu de ceux qui... était différent, et en l'occurrence des frères musulmans. Et donc, depuis le début des années 2000, avec quelques autres moines, ils partageaient la vie de ce très beau village, qui est maintenant devenu une grande ville, de Midelt, pas loin de, j'irais, des nomades, qui venaient, et qui aussi au monastère, quand ils descendaient au souk de Midelt.
Le père Vincent Feroldi, ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France, prêtre du diocèse de Lyon. La marine marocaine a secouru dans la nuit de dimanche à lundi 147 exilés africains et asiatiques. Ils étaient en difficulté à bord d'embarcations de fortune au large des côtes marocaines. C'est ce qu'indique l'agence de presse marocaine, la MAP. Les départs des côtes marocaines vers l'Europe, notamment vers les îles Canaries, se sont récemment multipliés via des routes maritimes dans l'Atlantique ou en Méditerranée, malgré un renforcement des contrôles. Gaulle. La clôture des candidatures pour la présidentielle du 24 décembre prochain en Libye. L'autorité électorale a reçu les dossiers de plus de 90 candidats. Parmi les candidats les plus en vue figurent notamment Saïf al-Islam, fils de Muammar Kadhafi, le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'Est et une partie du Sud libyen, l'ex-ministre de l'Intérieur Fatih Bachara et le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Dbeba, Leila Ben Khalifa, la présidente et fondatrice du parti Le Mouvement National et Ounaïda Al-Mahdi, chercheuse en sciences sociales, sont les deux seules femmes candidates. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, dirigeant de facto des Émirats Arabes Unis, se rendra en visite officielle en Turquie. Demain, il sera accueilli par le président turc, une première rencontre à haut niveau entre les deux pays en 2 ans. Des avocats et un parlementaire français demandent aux autorités françaises de rapatrier les femmes et les enfants français de djihadistes retenus dans des camps en Syrie. Un nouvel appel adressé à l'exécutif et parmi les signataires de cet appel, maître Richard Sédillot du Conseil national des barreaux.
Ce sont des personnes de nationalité française. Elles sont par ailleurs aujourd'hui retenues dans des camps dans des conditions qui défient les règles de salubrité ou les règles sanitaires les plus élémentaires. L'hiver approche, leur santé est précaire, l'accès aux soins est aussi. Et on ne peut pas humainement, évidemment, laisser ces personnes dans de telles conditions. Les autorités du Rojava nous ont expliqué qu'elles n'entendaient pas, évidemment, judiciariser ces femmes et que celles-ci devaient être rapatriées en France, ainsi que les enfants. Il ne saurait d'ailleurs être question pour ces autorités de rapatrier les enfants sans leur mère, car ce serait contraire également à tous les instruments internationaux qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant. De sorte qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que ces enfants étant français, ils doivent évidemment pouvoir être protégés par la France et regagner le territoire national avec leur mère. Il est possible d'imaginer que certaines de ces femmes seront jugées, mais je comprends que pour l'essentiel, elle souhaite évidemment pouvoir regagner le territoire national, quitte à devoir comparaître devant une juridiction.
Aujourd'hui, vous parlez d'une aberration juridique concernant le sort réservé à ces femmes et enfants.
Oui, parce que les autorités du Rojava ne sont pas reconnues aujourd'hui par la communauté internationale, puisqu'il s'agit d'une région qui a autoproclamé son indépendance, mais dont l'existence en tant que pays n'est pas reconnue par les Nations Unies ni par quelque pays que ce soit. De sorte que une décision qui serait rendue au Rojava n'aurait aucun effet. Elle ne serait pas reconnue par la France. On ne peut pas donc demander au Rojava de les juger en sachant que les décisions ne seront pas reconnues, qu'elles pourraient d'ailleurs de nouveau être jugées en France, puisque la règle non bis in idem, c'est-à-dire la règle selon laquelle on ne juge pas une personne 2 fois pour la même cause, ne pourrait pas être appliquée, et qu'elle relève incontestablement de la compétence des juridictions françaises. Et aujourd'hui, la situation, on le voit bien, elle est humainement intenable, et notamment pour ces enfants, auxquels on ne peut rien reprocher. Elle l'est aussi, d'ailleurs, en termes de sécurité. Il y a déjà eu des évasions des camps. Les autorités du Rojava nous disent que c'est de plus en plus compliqué pour elles d'assurer la sécurité dans ces camps. Et puis on peut supposer par ailleurs que parmi ces enfants, évidemment, nombreux sont ceux qui se radicaliseront s'ils sont maintenus dans de telles conditions.
Voilà, vous mettez en lumière cet enjeu également de sécurité pour le territoire français. Vous rappelez que ces femmes avaient rejoint l'organisation terroriste État islamique. Ces femmes qui doivent donc être jugées, selon vous, en France. Et les 200 enfants, eux, doivent être pris en charge. Comment peuvent-ils être pris en charge par la France à leur retour?
C'est une très bonne question. Il faut espérer qu'ils sont pris en charge dans les meilleures conditions. Certains pays l'ont fait, d'ailleurs. Un pays nordique, puisqu'il y a environ une quarantaine de nationalités probablement dans ces camps. Certains pays nordiques ont mis en place, grâce aux moyens de communication modernes, ont mis en place des cours à destination de ces enfants pour qu'ils puissent continuer à suivre un enseignement. à parler la langue de leur pays d'origine. Je crois que c'est la Finlande qui a fait ça. La Belgique a rapatrié un certain nombre d'enfants et de femmes. Les services sociaux belges ont été mobilisés. Je comprends que le juge belge, d'ailleurs, lorsqu'il a rendu des décisions à l'encontre de ces femmes, a pris en considération la période de détention qui avait été subie dans les camps, et c'est parfaitement légitime, parce que soit on les rapatrie immédiatement pour éventuellement ordonner une période de détention en France, soit, si ça n'est pas le cas, on doit évidemment tenir compte de la période de détention dans les camps lorsque la décision sera rendue dans le pays d'origine, en l'espèce la France. Il y a donc des pays qui ont déjà procédé à un rapatriement plus systématique que l'a fait la France et qui s'attachent évidemment à respecter, encore une fois, toutes les règles qui ont vocation à assurer la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, ne l'oublions pas, la France a ratifié tous les grands instruments internationaux protecteurs des droits de l'homme. Elle a évidemment ratifié la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Nous attendons la décision qui va être rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Une procédure est en cours devant le Comité international des droits de l'enfant des Nations Unies, qui a donc décidé d'ouvrir une procédure. Et ça n'est pas systématique lorsqu'une requête est déposée devant le comité. Il n'est pas systématique qu'une procédure soit initiée. On voit bien tout de même que les juridictions ou les organisations supranationales s'interrogent tout de même sur le sort qui est réservé à ces enfants. La France, ce sont des petits Français, la France ne doit évidemment pas les oublier. Ils sont aujourd'hui d'ailleurs, pour la plupart, en état de détention arbitraire, puisque et les juges antiterroristes que nous avons rencontrés nous l'ont confirmé, en principe, des décisions devraient déjà être rendues et les délais prévus pour la détention provisoire sont très largement acquis. Autrement dit, la détention est arbitraire. On pourrait parler d'ailleurs de séquestration arbitraire. Ces enfants sont victimes, les femmes aussi d'ailleurs, et la France doit évidemment intervenir puisque ses propres ressortissants sont victimes d'une situation qui est contraire au droit.
Maître Richard Sédillo du Conseil national des barreaux. Le Premier ministre français testé positif au Covid-19, Jean Castex, était cas contact après que l'une de ses filles, âgée de 11 ans, ait été diagnostiquée positive. L'agenda du chef du gouvernement est aménagé pour qu'il poursuive ses activités tout en étant à l'isolement pour une période de 10 jours. Le début aujourd'hui de la 37e campagne des Restos du Cœur. En 2020-2021, 1 200 000 personnes ont pu être accueillies, dont les trois quarts pendant l'hiver. Parmi les bénéficiaires, 15% d'entre eux ont déclaré être venus pour la première fois à cause de la crise sanitaire. Vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Nadej Azaz, porte-parole d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle. Il est 12h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.